Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors ça, c'est une nouvelle qui m'a vraiment jeté à terre. J'en parlais un peu plus tôt avec Pierre Nantel. C'est le Québec, la province au Canada où on fume le moins de cannabis. Vraiment, là, ça m'a assez étonné. On va en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Sébastien Fallu, chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Salut Jean-Sébastien.
Salut.
Écoute, tu m'aurais dit, là, c'est... Moi, j'aurais gagé 100 000 piastres. Je te dis, le 100 000 piastres, c'est sûr que c'est le Québec où on fume le plus de potes. On est les Chi-Chen-Chung du Canada. Il me semble que c'est même un stéréotype, là. Le Québécois, c'est un poteux. Est-ce que toi, ça t'a surpris en disant c'est la province où on fume le moins de cannabis?
Non.
Non?
Je l'ai été surpris, effectivement, comme toi, mais... Il y a de ça plusieurs années parce que il y a eu un renversement de cette tendance-là. C'est-à-dire qu'il y a, dans les années 2000, effectivement, le Québec était pas en queue de peloton par rapport à la consommation de cannabis au pays, mais ça fait plusieurs sondages où on voit cette tendance-là s'installer, même avant la légalisation, où le Québec, puis plusieurs personnes se demandaient pourquoi, c'est dur à expliquer, même avant la légalisation, là, c'était comme ça.
OK, même avant la légalisation, parce que je discutais là, avec un collègue de travail, puis il me disait peut-être parce que nous autres, on l'achète plus de façon illégale encore, plutôt qu'à la SQDC, mais tu dis que même avant la légalisation, c'était comme ça.
Ben d'abord, même avant la légalisation, il y avait déjà cette tendance-là qui s'est alourdie depuis la légalisation. Pour ce qui est du marché illégal, c'est sûr que des données statistiques comme ça, c'est pas infaillible, mais les données de Statistique Canada tiennent compte de l'approvisionnement illégal, donc okay. ça serait pas vrai. Si c'est une explication, c'est vraiment une petite part. Ce qui peut peut-être expliquer pourquoi cette tendance-là s'est accentuée depuis la légalisation, c'est peut-être entre autres à cause du modèle du Québec qui est plus donc qui est moins axé sur la privatisation comme ça a été le cas dans d'autres provinces. On sait que j'ai une vision équilibrée là-dessus, là, mais je pense que certaines provinces sont allées un peu trop fort sur un modèle commercial comme en Ontario. Puis on voit d'ailleurs qu'il y a plus de consommation là, mais je pense pas que c'est la seule explication. Il y a peut-être aussi des produits comestibles qui sont très, très mise en valeur dans d'autres provinces, beaucoup moins ici, et ça peut aussi expliquer une partie du fait qu'on consomme un peu moins au Québec.
On est très vin, tu sais, depuis quelques années, il me semble, la consommation de vin a augmenté au Québec. C'est peut-être ça. Hein? On utilise le vin
c'est
pour...
C'est sûr qu'il peut y avoir des déplacements vers d'autres substances, puis même par rapport au cannabis, moi je pensais que ça pouvait être le contraire, que certains délaissent un peu l'alcool vers le cannabis. Il y a certaines études qui tendent à montrer ça, mais c'est très préliminaire.
Là. Il me semble que lorsqu'on avait les premières discussions là, de légaliser le pot, là, il me semble que c'était au Québec où on était les plus résistants. Hein? Il me semble qu'à l'époque, là, nos médecins, nos politiciens, tout ça, là, étaient vraiment, on était la province la plus résistante à la légalisation du pot.
Oui, puis c'est encore le cas quand on regarde les sondages d'opinion publique favorables à la légalisation ou décriminalisation d'autres drogues. C'est au Québec où les taux d'appui sont les plus faibles au pays aussi. Ça va ensemble. Il y a comme une espèce de stigmatisation, de représentation très négative, de perception négative du cannabis, qui a été, oui, alimenté par des corps professionnels, je pense, et le gouvernement en bonne partie. On n'est pas les seuls, là, il y en a d'autres. Mmh. D'ailleurs, en Saskatchewan, c'est un peu semblable. Et il y a, justement, c'est la deuxième province là, où le taux de consommation est le plus faible.
Mais Jean-Sébastien, la bonne nouvelle, c'est que ça démontre que depuis la légalisation, il n'y a pas eu une augmentation fulgurante des consommateurs de potes, là.
Ben, ça montre ça au Québec, ça c'est certain. On voit, pardon, dans les données canadiennes, il y a quand même eu une augmentation, mais il faut faire très attention. Il y a vraiment plusieurs choses à prendre en considération. D'abord, les groupes d'âge. On sait que en général au Canada, mais c'est pas le cas au Québec. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on regarde des statistiques globales. Ça peut cacher des faits plus, précis pour des provinces, des quartiers ou des tranches d'âge. Mais globalement au Québec, ça a augmenté. Là, on estime environ de 2 à 5 % la consommation. Puis là, je parle avant la pandémie, puis je vais revenir là-dessus parce que c'est très important. Mais on voit que c'est surtout chez les personnes âgées, l'augmentation. Et c'est pas le cas chez les jeunes. Oui, tout à fait. Chez les jeunes, même en général, ça s'est soit stabilisé ou ça a diminué. Mais il faut faire vraiment... C'est compliqué. Il faut faire attention d'attribuer ça à la simple légalisation. Il y avait déjà, avant la légalisation, une tendance à la baisse chez les jeunes. Est-ce qu'elle aurait été plus prononcée sans légalisation? Je ne sais pas. Il y a la question des provinces, comme je le disais tantôt. Il y a des grandes différences entre les provinces. Donc, différence entre les âges, différence entre provinces. Puis en plus, dans la dernière année, là, et c'est là où on note une augmentation fulgurante de la consommation chez les femmes, dans le dernier trimestre de 2020, ben il y avait aussi la pandémie, toute la crise, les pertes d'emploi qui étaient davantage chez les femmes, qui stress peut-être aussi, qui travaillaient plus dans les hôpitaux, les soins en première ligne. Bref, moi j'ai très peur qu'on attribue à la légalisation des augmentations qui auraient été plus davantage causé, par exemple, par la pandémie. Puis je suis certain qu'on va l'entendre, ça, dans les années à venir. Ah, ça a augmenté, puis là, on va tout de suite pointer du doigt la légalisation, mais faut garder en compte.
Ben oui, qu'il y a eu la pandémie. Ben c'est sûr. Ben écoute, on le voit là. On boit plus pendant la pandémie. Là, on le voit, la consommation d'alcool a grimpé. Fait que c'est certain de la consommation de drogue. Et écoute,
Jean, oui, vas-y. Mais là aussi, je veux juste dire, les tendances globales, faut faire attention parce que des fois, il y a des gens qui ont moins consommé certaines substances, certaines tranches d'âge. On voit au Québec que le cannabis n'a pas augmenté en général, mais chez certaines tranches d'âge, oui. Donc, faut faire vraiment attention.
Puis, il y a différentes formes de consommation. Moi, je connais entre autres des gens qui prennent de l'huile, là, parce que entre autres, ils sont insomniaques, qui prennent ça pour mieux dormir. Des filles qui sont en ménopause, qui prennent ça. Des filles, lorsqu'ils ont leurs règles menstruelles, ils ont mal au ventre et ils se mettent de l'huile puis ça les calme un peu. C'est pas comme fumer un joint. Là. Il y a différentes façons de consommer le cannabis. Là.
Ben oui, puis ça me fait penser, d'ailleurs, dans l'enquête là, récente, on voit qu'il y a une augmentation chez les femmes, puis il y a plusieurs explications possibles, dont les produits comestibles au Canada là, et l'huile, qui est aussi moins stigmatisé, et on sait que traditionnellement la consommation en général là, d'alcool là, ça remonte à toute notre histoire, les tavernes, la vision là, de la femme là, qui est la gardienne des bonnes valeurs, puis l'homme et c'est vrai que les femmes sont davantage stigmatisées pour la consommation en général, mais là avec la légalisation peut-être moins, parce que ça devient plus acceptable, peut-être, socialement.
C'est vrai, mais c'est vrai, Jean-Sébastien. Quand j'étais jeune, là, on disait, ma mère, elle trouvait ça bien, elle est une femme saoule, une femme qui buvait, elle appelait ça une ivrognesse.
Oui, exactement, c'est ça. Puis là, ben, les produits comestibles aussi, c'est plus propre que c'est entre guillemets, là, que fumer un joint. Fait que peut-être que ça aussi, ça explique l'augmentation chez les femmes.
Et je sais pas si tu regardes beaucoup la presse française, mais tu sais, il y a des gros débats en France. Là, les gens se déchirent. Est-ce qu'on devrait légaliser le pot et tout ça? Et je regarde ça et ça me fait sourire parce que c'est les mêmes débats qu'on avait. Là, puis les opposants, là, ils voient vraiment une flambée de consommation. Et tu te dis, ben non, oui. c'est pas si grave que ça, là, ce qui s'est passé au Canada. Là.
En effet, je suis en contact avec des collègues en France, mais aussi en Suisse. La Suisse aussi là, est dans un processus semblable là, législatif là, de décriminaliser, légaliser le cannabis, puis effectivement on en discute, puis il y a les mêmes craintes, les mêmes résistances qu'on a vu ici qui annonçaient l'apocalypse. C'est le même débat. Oui.
Et où on en est là, dans le débat de décriminaliser toutes les drogues au Canada, ça commence à faire son chemin. On en est où là-dessus?
Ben, on en est que le projet de loi C-22, puis c'est drôle que tu me parles de ça, parce que cet après-midi, là, il y a une rencontre québécoise, mais qui est diffusée sur Internet, là, partout, sur la réduction des méfaits, puis je participe à un panel sur la décriminalisation, où est-ce qu'on en est au Québec, puis au Canada, du même coup, évidemment. Il y a le projet de loi C-22, comme je disais, qui est pas tout à fait de la décriminalisation, mais un assouplissement du code criminel. C'est un premier pas qui a ses limites. C'est sûr que, pour répondre simplement à ta question, on en est dans l'avancement vers ça. Ça va arriver quand on est rendu là, qu'on a les policiers, puis Erin O'Toole, puis les villes, qui appellent à la décriminalisation. Je pense que ça va arriver. La question, ça va être quand, mais aussi comment. Parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Là, tout le monde parle de décriminaliser, mais c'est pas toute la même vision de ce que devrait être la décriminalisation. Dans certains cas, c'est traiter les gens comme des malades puis les obliger à un traitement même s'ils sont pas malades. Ce à quoi je suis pas le seul à m'opposer. Là. Mais pour d'autres, c'est une décriminalisation qui est axée sur la santé publique puis justement répondre aux besoins sans forcer personne puis en reconnaissant qu'il y a des gens qui ont pas de problème.
Mais ben oui, mais comme
non
comme...
seulement non criminels, mais ni malades.
Ben c'est ça, comme à chaque fois qu'on se parle, là, on souligne tout le temps ça, il y a des gens qui prennent la dope puis sont vraiment dépendants, comme certaines personnes sont dépendantes de l'alcool, mais il y a des gens qui, de temps en temps, saoulent la gueule le vendredi soir, puis le reste dedans, ils peuvent fonctionner. Même chose avec la drogue, qui peuvent peut-être faire une petite ligne une fois de temps en temps dans un party ou prendre de l'acide une fois, puis ils sont pas tout le temps là avec la seringue dans le bras, là.
Exactement, puis c'est drôle que quand tu parles d'alcool, ça me fait toujours penser que on parle de, mon Dieu, décriminaliser, légaliser, mais il y en a une drogue très dangereuse qui est légale, puis personne capote, c'est l'alcool. Puis
tu peux aller dans un restaurant puis vider deux bouteilles de vin, puis il y a personne qui va capoter, là, tu sais.
Exact. Puis ça ramène encore une fois à la question de la perception puis la représentation de ces choses-là. Puis d'ailleurs, j'en profite même pour le dire, moi, depuis un an et demi là, environ, j'ai décidé que je dis publiquement que je suis un consommateur de drogue.
Parce que t'en parlais pas avant, je t'avais posé des questions au franc-tireur là-dessus, puis t'étais très, très discret, tu voulais pas en parler.
Ben c'est ça, hein. C'est dangereux, c'est risqué de prendre position. Oui. Je pense que pour que ça évolue, ça va prendre plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire changer la façon qu'on en parle, changer les lois, éduquer les enfants puis la population, puis aussi avoir des représentations positives, parce qu'on voit juste des drogués finis là, entre guillemets, dans les journaux, alors que on sait bien, il n'y a pas un médecin, pas un politicien, pas un journaliste, pas un policier, il n'y a pas un comptable, il n'y a pas un juge, il n'y a pas un avocat. Aucune de ces personnes-là consomme, évidemment.
Hey, écoute, Jean-Sébastien, je te donne rendez-vous. Là. Je veux qu'on reparle de ça, de ta relation à toi avec ça comme consommateur. Je trouve que c'est important qu'on ait cette conversation-là pour nos auditeurs. Ça te tente de revenir?
Qu'on en parle. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Super. Ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien Fallu. Toujours un plaisir de te parler. Salut.
Salut. Au plaisir.